Je vous invite à tourner vos Bibles avec moi dans le dernier livre de la Bible qui s'appelle Apocalypse. Okay. C'est le chapitre 4. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, qui me parlait, dit : ce qui doit arriver. Il est dit, après cela, je regardais, voici une porte était ouverte.
Dans l'Apocalypse, il est question de trois portes. Et c'est une porte que je vais parler ce matin. Plus particulièrement de porte ouverte. Après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel.
Ça, c'est une porte qu'on a dans l'Apocalypse. La première porte, nous la trouvons dans au chapitre 3, verset 8. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ensuite, la troisième porte, ou plutôt celle qui était en fait en réalité la deuxième, puisqu'on on a commencé avec la troisième, c'est chapitre 3, toujours, verset 20. Voici, je me tiens à la porte. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Trois portes. Trois portes ouvertes. Alors, ce que j'aimerais appeler ces portes, au chapitre 3, verset 8, nous avons ce qu'on pourrait appeler la porte de l'opportunité. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Une porte que Dieu ouvre et que personne ne peut fermer. La deuxième porte que nous trouvons donc toujours chapitre 3 verset 20, il est dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. C'est la porte du cœur. Et enfin, la troisième porte. Après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. C'est la porte de la révélation. Porte de l'opportunité, porte du cœur et porte de la révélation. J'aimerais commencer par la deuxième porte. Chapitre 3, verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Parmi les trois portes, il y a deux portes qui sont ouvertes par le Seigneur. Et il y en a une, et bien que c'est à nous d'ouvrir, c'est la porte du cœur. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu, Jésus, qui frappe à la porte du cœur. C'est extraordinaire. Jésus qui frappe à la porte. Il est le Tout-Puissant. Il est celui qui nous a créés, celui qui a créé toutes choses, celui qui a donné la demeure où nous nous trouvons. Il aurait pu dire, là où tu te trouves, c'est ma maison. J'ai la clé. Je suis le propriétaire. Je peux entrer quand je veux. De toute façon, tu es ma créature. Je fais ce que je veux. Et pourtant, comme quelqu'un l'a dit, Dieu, comme un gentleman, il demande qu'on lui ouvre la porte. Il ne va pas forcer la porte, mais il demande qu'on lui ouvre la porte. Quand je pense à certaines personnes qui n'ont qu'un tout petit pouvoir et qui font des dégâts terribles avec le petit pouvoir qu'ils ont, qui s'imposent, qui disent « Je suis le chef » et qui font beaucoup de dégâts. Et pourtant Dieu, lui, celui qui a la toute-puissance, il ne s'impose pas. Et on voit ici toute la sollicitude de Dieu, tout l'amour de Dieu. Dieu veut établir avec nous une relation d'amour. Dieu aurait pu nous utiliser comme des robots. Mais non, Dieu ne veut pas cette relation-là. Et il veut une collaboration consentante. Il veut notre coopération volontaire. Et donc c'est pourquoi il se tient à la porte et il frappe. Il ne défonce pas la porte, mais il frappe. Quel amour, quel respect que Dieu nous témoigne. Quel sens de la dignité qu'il nous donne aussi. Il ne veut pas s'imposer à nous, mais il nous demande. Il nous demande avec douceur. Est-ce qu'il y a une place pour moi? Est-ce que tu veux m'ouvrir la porte? Peut-être qu'il pleut dehors et il est sous la pluie. Est-ce que tu veux m'ouvrir? Et regardez ce qu'il offre aussi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, lorsqu'il frappe à la porte, c'est pas pour, comment est-ce que je pourrais dire, pour se disputer avec nous. Pour punir, pour faire je ne sais quoi. Beaucoup de gens fuient Dieu, mais ils ne savent pas ce que Dieu veut leur offrir. Combien de passages nous trouvons dans l'Évangile où l'invitation de Dieu, en fait, c'est une invitation à un festin, comme nous avons célébré la Sainte Cène, qui est un symbole aussi d'un festin que Dieu est en train de préparer à ceux qui répondent à son appel. Il demande d'entrer, non pas pour se disputer avec nous, non pas pour nous condamner, mais justement pour nous sauver et pour faire la fête avec nous. Alors, c'est intéressant de remarquer, il dit, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Et ici, c'est intéressant de voir de quel repas il parle. Ce n'est pas le petit déjeuner. Ce n'est pas le petit déjeuner du matin qu'on prend très vite, parce qu'il y a la journée de travail qui nous attend, et on prend juste quelque chose, pas grand-chose, en fait, c'est juste pour avoir un peu de force, pour démarrer la journée. Et ce n'est pas non plus le déjeuner ou le repas du midi qu'on prend, pour certaines personnes, on a juste une demi-heure de pause à midi, on mange très vite. Je me rappelle, j'avais un camarade chinois au collège biblique. Chaque fois qu'on s'asseyait à table à midi pour manger, il était le premier à finir. On se demandait, mais qu'est-ce qui se passe? Nous, on était peut-être au quart ou à la moitié. Lui, il avait déjà fini. Et on lui dit, mais comment ça se fait que tu manges aussi vite? Il a dit, eh bien, moi, je viens de Hong Kong. Quand je travaille à Hong Kong, on avait une courte pause et il fallait manger vite. Et donc, j'ai appris à manger vite. Et c'est ainsi qu'il avait toujours fini avant tout le monde. Et donc ici, ce n'est pas le repas de midi qu'on prend à la va-vite, mais c'est le souper. Le souper où on est assis, on prend tout son temps pour causer, pour bavarder. Comment ça s'est passé la journée? Qu'est-ce que tu as fait? Ou si tu as voyagé? Comment était le voyage? C'est vraiment un temps de communion, un temps de dialogue, un temps de partage. Et c'est pour ça qu'il parle ici de souper. Le moment de repos. La journée est terminée. On se relaxe. Et on est là. On prend le souper. C'est à cela que Jésus invite. Et alors, c'est pourquoi il dit, je frappe à la porte. Il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas la police qui est en train de chercher. Mais c'est un ami. Ou plutôt quelqu'un qui offre son amitié. C'est quelqu'un, un ami qui veut entrer, qui veut dire, j'aimerais souper avec toi ce soir. Comme il l'a fait avec Zachée. Zachée, descend vite. L'homme que tout le monde méprisait. Et Jésus dit, Zachée, j'aimerais souper chez toi ce soir. Et Zachée était tellement content. Lui qu'on méprisait, lui qu'on vilipendait. Voici enfin un homme qui l'appréciait. Voici enfin un homme qui lui donnait de la valeur. Voici un homme qui honorait sa maison. Je suis sûr que beaucoup de gens ne voulaient pas mettre le pied chez Zachée. Mais Christ lui a fait l'honneur. Alors, Christ frappe à la porte de chaque cœur et dit, est-ce que je peux entrer? Et maintenant, cet homme, lorsqu'il entre, ce Christ, lorsqu'il entre, il y a deux portes que lui aussi, il peut ouvrir. Deux portes que lui, il peut aussi ouvrir pour nous. La première porte, comme je l'ai dit, c'est la porte de l'opportunité. J'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. C'est celui qui trace un chemin là où il n'y en a pas. C'est celui qui fait des choses extraordinaires. Je me rappelle, quand j'étais étudiant, quand j'étais au CTS, tout d'abord j'étais étudiant, et ensuite après, le Seigneur m'a fait le privilège et la grâce d'enseigner dans cette école-là, d'être bibliothécaire. Et c'était dans les années 80. Et je me rappelle, quand j'ai commencé à enseigner au CTS, je n'avais pas encore la maîtrise. Et puis il y avait un autre camarade, en fait, un autre qui lui aussi avait fait le CTS, mais bien avant moi. Et puis après, qui était de passage au CTS, qui m'a vu à la bibliothèque. Et il m'avait connu en tant qu'étudiant. Et puis voilà qu'il me rencontre à la bibliothèque et il a appris que j'étais professeur au CTS. Et cet homme a pris à partie disant, comment se fait-il que tu es professeur au CTS? Moi, j'ai fait la maîtrise. Et j'ai toujours voulu enseigner au CTS. Et on m'a refusé. Et toi, tu enseignes au CTS. J'étais surpris. J'ai dit, bon, c'est pas moi qui me suis mis comme professeur. Mais j'ai été placé là comme ça. Et donc voilà, cet homme disait que lui, il avait le droit. Moi, je n'avais pas le droit. Mais le Seigneur fait ce qu'il veut. Le Seigneur fait ce qu'il veut. Et donc, il dit, j'ouvre une porte que personne ne peut fermer. Et donc, lorsque Dieu ouvre une porte, eh bien, on n'a pas à avoir peur. Et lorsque parfois aussi nous cassons la tête, nous essayons d'entrer par un chemin, si le chemin est fermé, eh bien, si la porte est fermée, nous devons savoir que Dieu a ouvert une autre porte pour nous. Nous pouvons voir ça dans Acte 16, je crois, lorsque Paul avait ses propres projets, mais Dieu, lui, avait un autre projet pour lui. Acte 16, à partir du verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Donc ici, à chaque fois, ils étaient devant une porte fermée et ils se demandaient, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que Dieu, Jésus-Christ, avait un autre plan pour eux. Et donc, nous voyons que, donc, ils ont pris la direction de l'Asie, ils ont essayé plusieurs endroits, et puis finalement, au verset 9, il est dit, « Pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière, « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Et là, tout s'est bien passé. Donc c'était le Seigneur qui avait ouvert les portes. Et à ce moment-là, tout s'est bien passé. Lorsque Dieu ouvre une porte, eh bien, c'est lui qui fait les choses. Mais on peut peut-être rencontrer des difficultés, mais il nous donne la victoire. Parce que c'est lui qui ouvre la porte. Et nous devons nous laisser conduire par le Seigneur. Dans Proverbe, il est dit, donc, dans le cœur, il y a plusieurs de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Nous avons des projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Donc, c'est pourquoi nous devons nous laisser conduire par Dieu et nous devons laisser aussi le temps, nous devons aussi attendre le temps de Dieu. Il y a aussi le temps de Dieu. Donc Dieu est celui qui ouvre la porte de l'opportunité. Il dit, il est celui qui élève et celui aussi qui abaisse. Si nous nous élevons, il va nous abaisser. Si nous nous abaissons, eh bien il va nous élever. Donc voilà l'une des portes que le Seigneur ouvre. Et puis, nous arrivons à la porte, la dernière porte, qui est la porte par laquelle nous avons commencé. Chapitre 4, verset 1er. Après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. Une porte était ouverte dans le ciel. Après avoir parlé des choses terrestres, après avoir parlé des églises, de cette église, maintenant, nous abordons ici dans l'Apocalypse des choses célestes. Donc après toutes ces choses, Jean dit, voici une porte était ouverte dans le ciel. On peut se demander, est-ce qu'il était déjà dans le ciel et que c'est une nouvelle pièce, ou plutôt, c'est la porte du ciel qui s'ouvre. Et nous penchons plutôt pour la seconde option, parce qu'après il est dit, monte ici. Donc il y a une porte qui s'ouvre, la porte du ciel. Et lorsque la porte du ciel s'ouvre, on a des visions divines. On a des visions divines. Et nous pouvons voir cela aussi dans Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 1, verset 1er. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. La porte de la révélation. Lorsque les yeux s'ouvrent, nous avons des visions divines. Et là, bien des fois, on voit des gens qui essayent de regarder par le trou de la porte. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Et puis tout d'un coup, on ouvre la porte. Et là, ici, ça, ce n'est pas n'importe quelle porte. C'est la porte du ciel. Et à ce moment-là, je suis sûr que Jean dit, waouh, c'est merveilleux. Ça me rappelle encore lorsque j'étais au CTS. Tout près du CTS, il y a une belle maison qui ressemble vraiment à un château. Et souvent, les Américains, quand ils passent par là, ils sont fascinés par cette maison. Et on m'a dit qu'à un moment donné, il y avait un groupe d'Américains qui passaient par là, à Le Saint-Pierre, et qui admiraient la maison de loin. Et à un moment donné, comme le propriétaire, il était vraiment flatté de voir qu'on s'intéressait à sa maison, et il a dit, invité aux Américains, venez, venez, je vais vous montrer à l'intérieur. Et je crois que c'est extraordinaire. Donc maintenant, ils avaient le privilège non seulement d'admirer la maison de l'extérieur, mais maintenant de l'intérieur. Et ici, Jean a eu le privilège non seulement d'entendre parler du ciel, mais il a pu voir un aperçu du ciel. Vois ce qui se passe. Ça me fait penser aussi à Moïse. Lorsque Dieu lui dit, écoute Moïse, puisque tu n'as pas honoré mon nom, tu m'as désobéi, tu n'entreras pas dans la terre promise. Mais je te fais une faveur. Monte sur la montagne et regarde. Regarde le pays. Et donc, Moïse avait un aperçu. Et je pense ici, Jean aussi a un aperçu. Et lorsqu'il a cet aperçu-là, je suis sûr que Jean dit, ah, ça c'est un lieu où j'aimerais y aller. Ça c'est un lieu où j'aimerais y aller. La révélation. Lorsque les cieux s'ouvrent, on a des visions divines. Lorsque les cieux s'ouvrent aussi, il y a une autre chose qui se passe. On peut voir ça dans Marc 1, verset 20. Marc 1, verset 10. Au moment où il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir. Et le ciel et l'esprit descendent sur lui comme une colombe. Lorsque les cieux s'ouvrent, eh bien, il y a l'esprit de Dieu qui descend. Nous devons prier le Seigneur que les cieux s'ouvrent et que l'esprit de Dieu descende. Et nous savons, lorsque l'esprit de Dieu descend, eh bien, des choses extraordinaires. Lorsque les cieux s'ouvrent, qu'est-ce qui se passe aussi? Nous pouvons voir également dans Jean, le premier chapitre, verset 51. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. En d'autres termes, lorsque les cieux s'ouvrent, nous voyons la gloire de Dieu. Nous voyons la gloire de Dieu. Et nous voyons des choses, comme Paul dirait, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Des choses que l'oreille n'a point entendues. Des choses que Dieu a réservées pour ceux qu'il aime. Des choses qui sont même difficiles à exprimer. Des choses comme Paul dirait, je connais un homme qui est monté au troisième ciel. Est-ce dans son corps ou pas dans son corps, je ne sais, mais je sais qu'il a vu des choses ineffables, des choses qui n'ont même pas permis à un homme de raconter. Et c'est pourquoi ici, lorsque nous lisons Apocalypse, Jean a vu des choses extraordinaires qu'il n'est pas capable d'exprimer. Et il dit, c'est comme une trompette. C'est comme de grandes eaux. C'est comme, il essaye de faire des comparaisons. Mais les mots sont faibles. Et donc, lorsque les cieux s'ouvrent, on voit la gloire de Dieu. Il faut vraiment avoir cette soif que les cieux s'ouvrent, que nous puissions voir les choses telles que Dieu les voit. Parce que lorsque nous avons cette vision-là, eh bien, vous savez, notre comportement change. Notre attitude change. Je vais vous donner un exemple. Même plusieurs exemples. Il y a notre attitude, selon la vision que nous avons, notre attitude peut changer négativement ou bien positivement. Prenons le cas des enfants dont on parle actuellement, qui viennent de Syrie, qui ont vu des horreurs. Ces enfants-là sont traumatisés. J'ai vu à la télé l'autre jour un père qui témoignait, qui avait récupéré sa fille, et à cause des visions de ce que ces petites filles avaient vu en Syrie, lorsqu'un avion passait, l'enfant avait peur. L'enfant pensait que l'avion allait déverser des bombes. Et donc l'enfant était traumatisé. Mais lorsque tu as vu de belles choses aussi, tu es joyeux. Tu veux raconter. Et des fois aussi, tu ne peux pas raconter. Et des fois, tu dis, ah, il ne sait pas ce que j'ai vu. Tu es content. Tu as une force que les autres n'ont pas. Exemple, dans 2 Rois chapitre 6, les Syriens, le roi syrien a envoyé des soldats attraper le prophète Élisée. Et Géasi, le serviteur du prophète, a vu cette troupe qui avance. Et Géasi a peur et dit au prophète, « Maître, nous sommes foutus. Tu vois, ils sont nombreux. Voici qu'ils arrivent, ils vont nous tuer. » Mais que dit le prophète? 2 Rois chapitre 6. On va lire à partir du verset 8. « Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. » Et dans un conseil qu'il tint avec ce serviteur, il dit, « Mon camp sera dans tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi envoya des gens pour s'y tenir en observation, vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël. » Un de ses serviteurs répondit, « Personne, ô mon roi, mais Élisée le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit, « Allez, et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire, « Voici, il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici, une troupe entourait la ville. avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? » Il répondit, « Ne crains point. Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Et puis, Élisa pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Et donc, lorsque les yeux de Géasi sont ouverts, là, il est rassuré. Il a dit, ah, ils peuvent être nombreux, c'est pas grave. L'armée qui nous protège est encore plus grande. C'est merveilleux. C'est merveilleux de savoir où on va, de savoir qui nous sommes, de savoir à qui nous appartient. Lorsqu'on a cette vision-là, eh bien, notre attitude change. Mais lorsqu'on ne sait pas qui on est, lorsqu'on ne sait pas où on va, à ce moment-là, on se laisse aller on est effrayé. On ne sait pas à qui on appartient. On ne sait pas qui est-ce qui nous protège. Mais lorsqu'on a vu le ciel, lorsqu'on a vu ce qui est en réserve pour nous, eh bien, on a la force d'avancer. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis là. Lorsque vous avez une idée de la destination où tu vas, eh bien, tu as la force d'avancer. Tu sais où tu vas. Et tu dis, ah, malgré la fatigue, j'y vais. Je sais ce qui m'attend, je sais ce qui m'attend. Et beaucoup de gens ne voient pas où ils vont. Et ils ne savent pas qui ils sont. Et ils ne savent pas non plus qui est avec eux. Il faut prier que les cieux s'ouvrent et que nous puissions voir la gloire de Dieu. Je me rappelle quand j'ai commencé le ministère au début, j'ai connu des problèmes terribles et j'ai eu la tentation d'abandonner. Mais quand je me suis rappelé les expériences que j'ai faites avec le Seigneur, j'ai dit, allez où? Retournez où? J'ai vu la gloire de Dieu. J'ai vu la puissance de Dieu. Et j'ai dit, je dois aller de l'avant. Et donc, ici, l'apôtre, après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette. Il n'arrive pas à exprimer le son qu'il a entendu. Mais il dit, c'est comme une trompette. Et qui me parlait, qui dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Et lorsqu'il a vu cela, il a dit, je veux y aller. Je veux y aller. Que le Seigneur nous aide à avoir cette vision-là. Et que lorsque les autres se découragent autour de nous, nous disons, moi je sais où je veux. Je sais où je veux. J'ai vu la gloire de Dieu. Et ceux-là qui ont vu le Seigneur, eh bien, sont complètement changés. On raconte cette histoire. C'est dans un village. Et tout le temps dans le village, il y avait une montagne. Et on disait, au-delà de cette montagne, il y a quelque chose. Au-delà de cette montagne, il y a quelque chose. Tout le temps, on parlait de ça. Mais il n'y a personne qui osait aller gravir la montagne parce que c'était tellement élevé. Et puis un jour, un bonhomme est allé. Il a gravi la montagne. Il est monté. Et il a vu. Et c'était tellement magnifique ce qu'il a vu. Et quand il est revenu, les gens du village ne l'ont pas reconnu. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Et il a dit, j'ai vu. J'ai vu. Et depuis lors, cet homme, il avait changé. Il avait changé dans son attitude, dans son comportement. C'est un peu comme Moïse, lorsqu'il est monté sur le mont Sinaï. Il a vu Dieu, il a parlé face à face avec Dieu, et il est descendu. Et quand il est descendu, ce sont les autres qui ont vu qu'il avait changé. Bien sûr, il devait se rendre compte un petit peu, mais pas tellement que ça. Mais c'est les autres qui ont vu qu'il avait changé. Ils ont dit, Moïse, s'il te plaît, couvre ton visage. Tu rayonnes. Tu brilles. Et nous ne pouvons... Ça nous fait mal aux yeux. Et donc, Moïse avait changé parce qu'il avait vu Dieu. Que le Seigneur nous aide. Eh bien, avoir cette vision, que les cieux s'ouvrent pour nous. Mais pour que les cieux s'ouvrent, pour que les portes, la porte de la révélation et la porte de l'opportunité puissent s'ouvrir, nous devons d'abord ouvrir la porte du cœur. Que nous puissions avoir cette soif de Dieu. Seigneur, oui, entre. Entre. Je t'invite. Soyons comme Zachée, qui était tout content. Oui, Seigneur, entre chez moi. Et je veux faire réparation pour toutes les bêtises que j'ai faites. À tout ce que j'ai volé, je vais le rendre au double, au quadruple. Tout ce qu'il faut. Et pour moi, ce qui compte, c'est cette nouvelle relation avec toi. C'est cette nouvelle relation avec toi. Ouvrons nos cœurs au Seigneur. Et lorsque nous ouvrons notre cœur au Seigneur, il vient pour souper avec nous. Et il vient pour nous ouvrir les yeux, pour nous raconter des choses, pour nous faire voir des choses, pour nous montrer l'album du ciel. Et lorsqu'on a vu l'album du ciel, on dit, ah oui, là, je veux aller à cet endroit-là. Ah oui, moi, je veux y aller. Et le Seigneur dit, regarde l'album. Et on dit, ah oui, ça, ce sont des photos. Si les photos sont comme ça, eh bien, la réalité doit être encore meilleure. Et je veux y aller. Je ne veux pas me laisser décourager. Bien-aimés, ouvrons nos cœurs au Seigneur. Et il va nous ouvrir les portes de l'opportunité et les portes de la révélation. Que Dieu ouvre les cieux pour nous. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits.